This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le
18-20 ce soir en Suède, à Hong Kong, à Bruxelles. Ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Culture et cinéma. Eva Détang nous parlera tout à l'heure du film singapourien Apprentice. À 18h55, c'est l'édito d'Alain Frachon. D'Alain Frachon du quotidien Le Monde sur la doctrine nucléaire d'Obama. Vous verrez qu'elle est contradictoire. Tout de suite, on file en Thaïlande.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
La Thaïlande, 2 ans après le coup d'État qui a permis aux militaires de prendre le pouvoir et d'asseoir les bases d'un régime autoritaire et répressif. Bonsoir David Camerou.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des systèmes politiques asiatiques au Centre de Recherches Internationales de Sciences Po Paris, le CERI. Pour ceux qui connaîtraient mal la réalité politique thaïlandaise, revenons donc 2 ans en arrière, coup d'État. Que se passe-t-il à ce moment-là exactement? Quel est le rapport de force? Qu'est-ce qui s'est joué?
Oui, il faut aller même beaucoup plus loin en fait.
Remontons. Premier coup d'État de l'histoire thaïlandaise. Hein.
Non. Il faut remonter à 1932, donc c'est le premier coup d'État. Il y a eu 20 depuis, hein, donc c'est un record mondial. Et on peut dire que depuis le premier coup d'État de 1932 qui a mis fin à la monarchie absolue, la Thaïlande est à la recherche d'un modèle politique. Ils n'ont pas encore trouvé. Bon, ça prend un certain temps. On le sait, après la Révolution française, ça a pris un siècle. Donc, 70 ans, c'est pas excessif. Mais il y a eu une série de coups d'État depuis, des cycles de coups d'État suivis par une période de démocratisation, une nouvelle constitution, et ainsi de suite. Alors, en 1997, on a fait une constitution pour moderniser les pays et pour créer les vrais partis politiques, pour encourager l'existence des vrais partis politiques. Et le résultat de cette constitution de peuple a été l'arrivée au pouvoir en 2001 de Thaksin Shinawatra. Thaksin Shinawatra était différent de ses prédécesseurs à 2 titres. Premièrement, il n'était pas issu de l'armée, mais de la police. Deuxièmement, il n'était pas issu de Bangkok, mais il était issu de Chiang Mai du Nord. Donc, il représentait une nouvelle génération d'hommes politiques, d'hommes de fait. C'est un peu le Berlusconi thaïlandais, mais sans le bunga bunga. il était l'homme le plus riche du pays et il est devenu premier ministre en disant « Je ferai pour le pays comme je fais pour moi-même ». Et il traitait le rôle de premier ministre comme celui de
chef d'entreprise. J'imagine,
voilà. En faisant ainsi, pour la première fois, la Thaïlande avait un parti au pouvoir, un gouvernement avec une majorité au Parlement, c'était jamais vu. Et ils sont pour les militaires, ils menaçaient à la fois le rôle des militaires et le monarque, le roi Bhumibol, qui est sur le trône maintenant depuis 1947, si mon mémoire est bon. Et donc, il a été renversé par un coup d'État lui-même en 2007. Ensuite, après les élections, et rebalote, on a foutu les Chinois dehors par la porte. Il revient par la fenêtre parce que sa sœur Yinuk devient Premier ministre. Et à ce moment-là, on voit le pays divisé en 2 camps. Les chemises jaunes, le jaune, c'est la couleur du roi. C'est le jour de sa date de naissance dans le calendrier bouddhiste, l'astrologie bouddhiste, et la chemise rouge qui soutient Thaksin et sa sœur Yinluck. C'est qu'en grosso modo, un pays divisé en 2, le nord est rouge, c'est un peu comme l'Angleterre d'ailleurs, le nord est rouge et le sud est jaune. Et donc, il y a une période vraiment d'instabilité qui commence avec les manifestations, les contre-manifestations, avec les occupations par les chemises jaunes, ensuite par les chemises rouges, avec beaucoup de violence. Et en 2014, donc, l'armée intervient pour la 20e fois, je crois, 20e fois, avec un coup d'État, et le général Prayut prend le pouvoir et devient Premier ministre. Il est toujours Premier ministre 2 ans après.
Mais alors, l'armée, David Camerou, intervient, je dirais, pour régler ce qui est à ses yeux une crise politique, ou tout simplement avec une pulsion militaire autoritaire et une volonté de récupérer le pouvoir, point à la ligne.
Alors, je crois que ce qui est différent cette fois, le coup d'État en 2014, le 22 mai, était plutôt bien accueilli par les classes moyennes, l'élite de Bangkok, parce que ça mettait fin au désordre. Mais l'armée jouait ce rôle un peu de coupe-circuit, hein, en fait. Et en général, avant, l'armée restait un an maximum, on crée une nouvelle constitution et on s'en va. Alors cette fois, Prayut s'accroche au pouvoir. Et c'est ça qui est différent. Et c'est ça qui suscite, deux ans après, une montée de l'opposition, y compris et surtout parmi ses anciens soutiens, parce que l'armée n'est pas rentrée dans la caserne comme c'est là. Il joue pas le jeu, hein. Et le général Prayut, donc, clairement souhaite se maintenir au pouvoir, au moins pendant la période de succession. Parce que le roi Bhumibol est souffrant, le prince héritier et pour le moins puisté très impopulaire. Et donc, on est dans une ambiance vraiment de fin de règne.
Et bientôt avec, de vacances du pouvoir.
Et de vacances du pouvoir, parce que le roi en Thaïlande, c'est un acte politique. On se demande si le roi, il est à l'hôpital, on ne l'a pas vu depuis maintenant deux ans, s'il est vraiment, on se pose la question,
s'il est encore vivant. Même.
Oui, ouais. Vraiment.
Alors juste avant de venir à la personne du roi, encore une question sur les militaires. Pourquoi ont-ils un tel rôle, un tel poids politique en Thaïlande?
Parce que, historiquement, les militaires, avec la modernisation qui commence à la fin du 19e siècle, c'était la première classe qui n'était pas issue de l'aristocratie, qui avait une formation. Et donc, progressivement, c'est un peu le jeune toc qui prend l'importance et qui se dit, ils atteignent un certain plateau. Et donc, c'est pour ça, là, on met fin à la monarchie absolue. Et les militaires se présentent comme les seuls gardiens de l'unité nationale. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont encouragé à la prise de pouvoir par l'armée, mais ils ont dit à l'armée, attention, vous ne pouvez pas rester au pouvoir en votre propre nom. Il faut un symbole, et donc c'est derrière le roi, et donc l'armée se considère comme le garant de la continuité de la monarchie. C'est pas simplement l'armée, c'est une partie de l'armée, en fait, c'est les gardes de la reine qui sont au pouvoir actuellement avec le général Prayut.
Et qui compose sociologiquement cette armée? Est-ce que les militaires, c'est l'élite thaïlandaise? Ou c'est plus compliqué que ça?
Ça fait partie de l'élite. Et la Thaïlande a fonctionné pendant la période des militaires, autoritaires, avec une alliance entre la junte, entre les militaires, disons la monarchie, et aussi la fonction publique, en fait, la grande fonction publique, hein, les grands serviteurs de l'État. Mmh. Et on peut ajouter à ça dans l'élite la communauté sino-thaï, les hommes de fer sino-thaï, qui représentent quand même, disons, 70% de l'économie. Hein, donc, qui sont très importants pour ce pays. Donc, ça fait une petite famille autour de Bangkok, autour du roi, et justement, Thaksin et sa sœur, et la montée, justement, l'empowerment, en fait, le fait que les gens du Nord, les paysans, qui ont soutenu Thaksin, qui est la première fois que c'est un populiste, mais au moins, il a fait les choses pour eux. Hein. Et ils se sentaient, voilà, pour une fois, on a un gouvernement qui nous représente, qui nous donne du pouvoir. Et là, on est dans une situation, pas de guerre civile, il ne faut pas exagérer, mais vraiment d'une grande mêlée sociale et des grands clivages.
Alors, pour peu qu'il soit vivant, comment décrire le profil idéologique et politique du roi David Camerou?
Le roi Bhumibol correspond à l'idée bouddhiste d'un Dharmaraja, c'est-à-dire un roi juste qui incarne lui-même la monarchie, pas que la monarchie, mais les valeurs bouddhistes de modesté, disons, d'harmonie, de justice.
Ça, c'est sur le papier.
Oui, mais c'est le cas pour lui-même. Le problème, c'est son épouse, qui est un peu Lady Macbeth, et le fiston qui est un vrai désastre, en fait. Le fiston qui est un playboy, mais c'est pire qu'un playboy. Hein. Donc, on a vraiment une contradiction entre ce fait que le roi Bhumibol, qui est arrivé sur le trône dans des situations très troubles, parce que son frère, qui était sur le trône, est mort accidentellement, mais on n'a jamais élucidé, en fait, le décès de son frère. Et le roi Bhumibol a pu incarner, disons, une certaine état providence, parce que tout était fait au nom du roi. Là. Mmh. La construction des hôpitaux, des cliniques, des écoles, la réforme agraire, tout ça s'est fait au nom du roi.
Et on n'a pas le droit de le critiquer, hein, le roi.
Non, il existe les lois de lèse-majesté, qui sont de plus en plus utilisés ces dernières années, surtout depuis le coup d'État, justement pour arrêter toute opposition, parce que il y a des exemples complètement loufoques, mais le moindre critique qui peut être associé au roi peut entraîner des années en prison.
David Kamrou, je disais tout à l'heure que c'était la Thaïlande un régime autoritaire, ce n'est pas une dictature au sens strict du terme. La société civile cherche tout de même à se faire entendre, est-ce qu'elle y parvient et de quelle manière?
La société civile, oui, il y a une presse qui est relativement libre. Le général Prayut essaie d'imposer une constitution qui va, grosso modo, maintenir l'armée au pouvoir avec un Sénat largement nommé et non pas élu, avec toute une série de garde-fous qui vont garantir le pouvoir de l'armée. Et là, une opposition, justement, de la société civile, parce que ce n'est pas simplement l'ancien parti de Thaksin et de sa sœur, le Pieu Thaï, les Pro Thaï, mais c'est aussi l'ancien parti, disons, de l'establishment, le parti démocrate, qui maintenant a mis vraiment les réserves sur cette constitution. Donc, il y a une montée de l'opposition, parce que la Thaïlande, quand même, c'est un pays, disons, plus qu'émergent, nouvellement industrialisé, avec une classe moyenne la classe moyenne souhaite une bonne gouvernance, il ne souhaite pas forcément la démocratie. Pas forcément la démocratie.
C'est découplé là, pour
oui,
une
non,
fois.
La bonne gouvernance et la démocratie sont découplées. Mm-hmm. Les bons gouvernements en Thaïlande, dans l'histoire, ont souvent été les gouvernements des technocrates.
Mm-hmm. Donc il n'y a pas de revendication nécessairement massive à l'intérieur de la Thaïlande pour une démocratisation du pays.
Il y a une demande dans le nord, parmi ceux qui soutiennent Thaksin et sa sœur, pour une démocratisation. Mais il y a une demande que l'armée se retire, qu'il reste, revient dans la caserne, au cas où ça tourne mal pour refaire le 21e coup d'État, mais une demande de stabilité, de bonne gouvernance, parce que la Thaïlande est confrontée à plusieurs malaises, en fait, des malaises sociaux, politiques, mais la fin de règne, mais aussi la Thaïlande est une victime de ce qu'on appelle le middle income trap, en fait, le fait qu'ils ont atteint un certain niveau de richesse. Et ils n'arrivent pas de monter, en fait. Ils se sont bloqués.
Il y a un plafond de verre.
Il y a un plafond de verre à 5 000 à 10 000 dollars. Ils n'arrivent pas de remonter parce que le système éducatif n'est pas adéquat, performant. Il n'y a pas de vraie innovation en Thaïlande. On fait beaucoup, c'est le centre, par exemple, de la construction automobile pour l'Asie du Sud-Est. Mais tout ça, c'est avec des multinationales. Il n'y a pas même pas de transfert de technologie. Donc, c'est vraiment il n'y a pas vraiment une augmentation de productivité qui est engendrée localement dans ce pays.
Comment expliquer que en Thaïlande et plus largement dans la région, les processus de démocratisation patinent, que l'émergence de classe moyenne ne débouche pas, comme ça a été le cas historiquement, et c'est théorisé même, ne débouche pas sur des processus puissants de démocratisation.
Parce que d'abord, on avait tort de penser que le modèle européen pourrait être répliqué ailleurs. On se rendait compte que ce qui souhaite les classes moyennes, c'est la stabilité politique. Ils ne souhaitent pas des États forts, justement. Ils souhaitent les États plutôt faibles qui vont les permettre, justement, de faire les affaires, de améliorer leur propre situation. Ils ne souhaitent certainement pas une démocratie économique. Ils ne souhaitent pas trop de redistribution de revenus. Et donc, le régime démocratique, comme on l'a vu aux Philippines, n'ont pas été vraiment extrêmement performants au niveau d'améliorer la qualité de la vie du petit peuple, du peuple en général, et surtout des classes moyennes. Donc, ce qui est demandé, c'est plutôt, c'est pas la démocratie représentative, comme j'ai dit, c'est la bonne gouvernance qui est la bonne administration. Et je crois qu'il y a aussi un aspect, c'est pas le cas pour la Thaïlande, qui est le seul pays qui n'a pas été colonisé, mais quand même, on trouve dans, parmi l'héritage de l'époque coloniale, où les gouverneurs n'étaient pas les élus, c'est nommé par Paris, Londres, La Haye, c'est que la bonne gouvernance et la bonne administration. Donc, on a une tendance, en général, d'essayer de dépolitiser la politique et de rendre la politique comme une forme de bonne administration.
Mmh. Oui, donc à vous entendre, David Camerou, les militaires sont pas prêts de quitter le pouvoir.
Pas tout de suite, non. Et s'ils quittent le pouvoir, ça sera après la succession, je crois. Et ça sera avec les garanties pour la poursuite de leurs intérêts, en fait, la protection de leurs intérêts dans l'avenir à venir.
Qu'est-ce qui fait l'unité de la Thaïlande? Ce sera ma dernière question.
Le roi, une grande fierté dans la culture thaïlandaise. C'est comme un pays culturellement très très riche, avec une cuisine extraordinaire. Et autour du roi, en fait, c'est le roi qui est le ciment. C'est pour ça la succession, c'est la clé de voûte. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'après lui, c'est vraiment un déluge dans tous les sens. C'est une crise existentielle. C'est plus qu'un... Je pèse mes mots. C'est plus qu'une...
Pourquoi existentielle et pas simplement une crise de succession, comme on peut en connaître?
Parce qu'on l'a mis tellement sur une pédestal. À plusieurs époques dans l'histoire thaïlandaise, la monarchie était en déchéance. Mais on l'a mis tellement sur le pédestal que c'est lui, c'est le papa. C'est papa, c'est le père du pays, et nous attendons le décès du père, et sans savoir, en sachant que
le fils sera sans doute pas à la hauteur.
Et certainement pas à la hauteur, et sa sœur, qui est très aimée dans le pays, ne pourrait pas, pour l'instant, devenir reine.
Eh bien, merci David Camerou, spécialiste, on l'a entendu, ô combien des systèmes politiques asiatiques au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po Paris, le CERI. Merci beaucoup d'avoir été au micro de France Inter. Il est 18h33, on est ensemble jusqu'à 20h dans quelques instants. C'est le journal de l'international ailleurs dans le monde, présenté par Michael Thébault. Tout de suite, Andrew Bird, Capsized.
Now when you wake up, night's falling, someone is by your side. Pull it together, darling, you're not alone. But when you break up, sky's falling, no one is on your side. Spoon to the laundry, darling, you're all alone. And when you wake up, another sunrise.
And when you wake up, another sunrise.
when you break up. Sky's falling, no one is on your side. Spoon little laundry, darling, you're all alone.
Capsized, Andrew Bird sur Inter. Il est 18h36.
Sete horas, quatro minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Direction la Suède pour commencer et évoquer la résurgence de mouvements d'extrême droite que même les Suédois croyaient à tort disparus.
Et ce qui nous a donné envie d'en parler ce soir, Nicolas, c'est une photo. Une photo que vous avez peut-être vue, qui a déjà fait le tour du monde ou presque. Considérée d'ailleurs comme l'une des images de l'année en Suède. Alors je vous plante le décor, c'était le 1er mai dernier dans la petite ville de Borlänge, à 250 km au nord-ouest de Stockholm. Une rue commerçante du centre où se déroule une manif, 300 personnes environ qui défilent. Et là, face à la tête de cortège, au milieu de la chaussée, il y a une jeune femme d'une trentaine d'années, toute seule, noire, et qui brandit le poing face à 5 jeunes hommes blancs, pantalon façon treillis chic, chemise blanche, cravate verte. Tous sont membres du mouvement Résistance Nordique, organisation ouvertement néo-nazie. Et le photographe qui a pris cette photo travaille pour un magazine très connu en Suède, Expo, c'est son titre, magazine antiraciste qui suit et poursuit l'extrême droite suédoise depuis une trentaine d'années. Bonjour Anne-Françoise Hiver, en direct de Stockholm.
Bonjour Mickaël.
Alors vous êtes allé à la rédaction d'Expo où vous avez rencontré Daniel Poul, le rédacteur en chef de ce trimestriel, contraint de discrètement travailler.
C'est bien ça, Mickaël. Nous sommes dans le quartier de Gamla Stan, la vieille ville, dans le centre de Stockholm. Une rue touristique, aucun signe sur la porte, un interphone seulement, une porte sécurisée à l'étage. La rédaction d'Expo reçoit régulièrement des menaces. Les bureaux sont sobres, du plancher, des murs blancs, quelques plantes. L'équipe compte 23 personnes qui partagent toutes les mêmes convictions, explique le rédacteur en chef Daniel Poul.
Nous sommes un journal qui a été créé en 1995 en réponse à une présence croissante de groupes d'extrême droite. Expo était un magazine qui identifiait ces groupes, racontait qui ils étaient, ce qu'ils voulaient et expliquait un phénomène sur lequel beaucoup de gens se posaient des questions.
Lui a commencé sa carrière dans le journal à 20 ans. En 2001, il infiltre le Parti National Démocrate, une formation ultra-minoritaire disparue depuis. En 2004, il est nommé rédacteur en chef adjoint après la mort soudaine du rédacteur en chef. Vous connaissez sûrement son nom, il s'appelait Stieg Larsson, c'est l'auteur de la trilogie Millennium, vendue à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde. Il était aussi l'un des fondateurs d'Expo.
Et cette mouvance néo-nazie se retrouve évidemment dans bon nombre de ses pages. Alors le trimestriel, lui, existe donc depuis un peu moins de 30 ans. Comment la situation a-t-elle évolué depuis dans le pays ?
1995, Mickaël, est une année noire en Suède. Un ado de 14 ans, un demandeur d'asile et un joueur de hockey sont tués par des néo-nazis. Svenska Motståndsrörelsen, le mouvement de la résistance suédoise, est créé 2 ans plus tard, en 1997. Il est depuis devenu le mouvement de la résistance nordique. Ce sont ses dirigeants que l'on voit sur la photo prise le 1er mai à Borlänge, ceux qui portent la chemise blanche, un signe de pouvoir, selon Daniel Poul.
N'importe qui n'a pas le droit de le faire. Il faut avoir atteint un certain grade et vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en tant qu'activiste. C'est la lutte avant tout. Cela demande un engagement énorme. Il se voit comme un front, ceux qui marchent devant, qui manifestent dans la rue et représentent l'avant-garde du peuple suédois. Grâce au fanatisme et à l'élitisme, ils espèrent attirer les bons candidats capables de faire le travail. Ce qu'ils jugent nécessaire dans une société qui, dans leur monde, est dominée par une conspiration juive mondiale, parce que c'est avant tout une organisation antisémite.
À Borlänge, ils étaient 300 à manifester. L'organisation a grossi rapidement l'an dernier après la dissolution du Parti des Suédois, une formation politique néo-nazie qui s'est mobilisée pour les élections municipales en 2014, un fiasco. Le mouvement de la résistance nordique a récupéré certains de ses militants.
Et comment sont perçus justement ces militants, Anne-Françoise? Sont-ils considérés comme une menace démocratique?
Eh bien, en attendant le grand jour, ils patrouillent dans les rues la nuit, surveillent les piscines, s'entraînent au sport de combat. L'un d'entre eux est même entré au conseil municipal de Ludvika, une ville de 15 000 habitants dans la province de Dalekarli, au centre du pays. Mais ce qui inquiète surtout les journalistes d'Expo, ce sont ces loups solitaires, ceux qui n'appartiennent ni à la mouvance néo-nazie, ni à l'extrême droite parlementaire. Personne ne sait combien ils sont. Ils propagent leur haine sur Internet et mettent le feu à des centres de réfugiés.
Vous pourrez faire ce genre d'attaque, puis aller sur Internet et avoir le sentiment d'être un héros, parce que d'autres le pensent. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est suffisant.
Daniel Poul regrette d'ailleurs que les services de renseignement ne prennent pas la menace plus au sérieux.
Oui, on comprend pourquoi. Merci beaucoup Anne-Françoise Hiver, correspondante de France Inter à Stockholm.
Et comme chaque jeudi, Mickaël, direction maintenant Bruxelles pour nos petites et grandes histoires des instances européennes.
Ouais, ce soir, Nicolas, c'est une histoire de foot, football, puisqu'à quelques jours, évidemment, du coup d'envoi de l'Euro 2016, la Fédération Européenne de la Santé Publique s'est livrée à un petit jeu, évaluer les chances des 16 équipes nationales en compétition. Bonsoir Quentin Dickinson, en direct de Bruxelles.
Bonsoir Mickaël, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Bonsoir coach.
Alors, évaluer les chances des équipes, ça n'a rien de nouveau, Quentin, sauf que là, les critères pris en compte ne sont pas sportifs du tout, mais médicaux, niveau de qualité de vie de chaque pays du point de vue médical.
Oui, l'idée au départ, c'est que les citoyens européens ne sont pas égaux en matière de santé publique et que la meilleure démonstration en est l'espérance de vie, effectivement très variable d'un pays à l'autre. L'endroit où vous vivez peut vous tuer, annoncent brutalement les chercheurs anglais qui se sont prêtés à cet exercice.
Alors cet Eurobis, concrètement, ça donne quoi? Exemple pour l'équipe de France.
Eh bien la France, où les hommes ont une espérance de vie de 79 ans, l'emporte d'un an sur l'Irlande du Nord, mais est battue en quart de finale par les Espagnols, qui peuvent s'attendre à vivre 80 ans, sans doute en raison de leur régime alimentaire méditerranéen. Les autres favoris ne vont pas bien loin non plus, puisque les Allemands, 79 ans comme les Français, sont éliminés par les Italiens, 80 ans, ces derniers étant vaincus par les Suisses qui finissent par l'emporter en finale sur toute l'Europe, à l'issue d'un affrontement de titans octogénaires avec les Islandais, 85 contre 84.
Bon alors, Suisse-Islande, bon c'est original comme calcul, Quentin, d'accord, mais c'est quoi l'intérêt?
Eh bien l'objectif, c'est d'alerter l'opinion et les dirigeants politiques européens au fossé qui se creuse entre l'Ouest et le Nord de l'Europe d'une part, et d'autre part, l'Est et le Sud-Est du continent en matière de santé publique. Ainsi, les Suisses vivent-ils en moyenne 10 ans de plus que les Roumains? Et si vous êtes de sexe masculin et que vous naissez et vivez votre vie durant en Ukraine, votre 66e anniversaire pourrait bien être votre dernier.
Et ce comparatif révèle aussi d'autres réalités peu reluisantes, voire franchement inquiétantes.
Oui, c'est vrai, ce n'est pas parce que vous vivez en Europe de l'Ouest que nécessairement votre système de santé est au-dessus de tout soupçon d'inefficacité, que des déserts médicaux ne s'étendent pas chaque année davantage en milieu rural et que la généralisation de la malbouffe n'exerce pas des ravages, en particulier chez les plus démunis. Le meilleur exemple, enfin plus exactement le plus abominable exemple de cela, c'est le Royaume-Uni qui détient le triste record du taux général de mortalité le plus élevé en Europe occidentale, ainsi que celui du taux de loin le plus élevé aussi d'obésité chez les femmes.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles, merci. Et donc on retient finale de l'Euro, ce sera Suisse-Islande.
18h45 pour finir, Mickaël, vous nous emmenez à Hong Kong où un groupe français vient d'inaugurer la plus grande usine au monde, usine de traitement et de valorisation des boues, de la boue. Hein.
Les boues d'épuration, voilà. Nicolas, autrement dit, hein, les eaux domestiques usées, cuisine, salle de bain, toilette, des quelques 7 millions de foyers hongkongais. Et ce groupe français, c'est Veolia. Sa mission donc, transformer ces eaux noires en eau propre et aussi en électricité. Défi déjà technologique, mais pas seulement, puisque l'usine se veut aussi lieu d'éducation et de loisirs. Bonsoir Florence de Changy, correspondante de France Inter à Hong Kong. Alors vous vous êtes rendue sur le site à Tuen Mun, précisément dans ce qu'on appelle les nouveaux territoires hongkongais. C'est à l'ouest de la capitale et tout l'état-major du groupe était là. C'était hier pour l'inauguration officielle.
Absolument, Michael. La première surprise, d'ailleurs, en arrivant à Tuen Mun, après à peu près une heure de voiture en compagnie de Régis Kalmens, le directeur général de Veolia en Asie, c'est qu'on est en pleine nature.
Il y a beaucoup d'espaces verts à Hong Kong. Effectivement, là, nous sommes en bord de mer, face à Shenzhen. Et vous allez voir tout à l'heure, la vue d'ailleurs depuis ce site est magnifique.
Donc là, nous arrivons à la station de Sludge. Voilà, voilà donc l'usine.
Bon, alors voilà, on y est. À quoi ressemble-t-elle, cette usine, Florence ?
Eh bien, elle est assez spectaculaire. Elle se présente comme une double vague avec une immense façade en verre qui fait face à la mer et tourne le dos à la montagne. Et selon Antoine Frérot, le PDG du groupe Veolia, son isolement a été son premier défi.
C'est une usine qui est au bout d'une île de Hong Kong parce que vous savez que dans ce territoire, il y a très peu de place. Et elle est donc isolée de l'ensemble des services d'eau et d'électricité. De ce fait, avec les boues qui sont humides, l'usine va récupérer l'ensemble des eaux épurées pour assurer son autonomie en eau et ne pas rejeter d'eau usée du tout dans la mer. Et avec les boues, elle va assurer non seulement la totalité de son autonomie en énergie, mais va exporter de l'électricité une fois que le biogaz sera turbiné pour alimenter toute une série d'habitations en électricité à partir d'une ligne électrique qui a été tirée à partir de l'usine.
Voilà, alors en arrivant sur place, c'est Vincent Deleu, le chef du projet de l'usine, qui nous a accueillis sur le parking en pelouse et qui va nous guider.
Nous sommes dans les jardins de l'EEC, le Centre éducatif pour l'environnement, donc qui sera un lieu dédié à la réception du public voisin du site. Donc ce lieu comporte des jardins, des bassins, des fontaines, des jeux pour les enfants, un centre éducatif pour expliquer au public comment l'usine fonctionne et pourquoi elle a été créée. Donc c'est un lieu qui se fait à la fois un lieu d'éducation et d'explication sur le traitement des boues et des déchets. Et il y a le lieu de loisirs avec des spas, des bassins, une zone humide pour leur permettre d'observer les oiseaux qui nichent à proximité.
Bon alors tout cela a l'air absolument formidable, belle opération de com évidemment hein, pour Veolia. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans ?
Alors pour les oiseaux, ce n'est peut-être pas aussi simple, mais c'est vrai qu'il y a de la musique zen dans certains couloirs. Et j'ai même goûté l'eau des piscines et elle est très chaude.
L'eau des toilettes, l'eau potable que nous buvons, l'eau pour laver les camions, l'eau du process, c'est nous qui la produisons. On a une station de pompage qui est enterrée, qui pompe de l'eau de mer et qui amène ça dans notre usine de traitement d'eau qu'on va visiter dans 5 minutes et qui permet de produire tous les besoins du site.
Donc l'eau des piscines, c'est de l'eau de mer en fait, désalinée.
Ça a été de l'eau de mer avant de devenir de l'eau potable traitée pour les piscines, oui, exactement.
Alors d'accord, l'opération séduction continue, Florence. Nouvelle étape dans le centre dit éducatif de l'usine où tout le processus de transformation mécanique et chimique des boues est expliqué au public.
L'énergie contenue dans les boues est ensuite diffusée pour produire de la vapeur. Et c'est cette vapeur utilisée dans les différents échangeurs et dans les turbines de l'usine qui nous permet d'être autosuffisants en électricité.
Autosuffisance donc en eau et en électricité, c'est en soi une performance. Il a fallu plus de 5 ans pour construire cette usine qui aujourd'hui ne tourne encore qu'à 40% de ses capacités, 800 tonnes jour donc pour le moment.
Pour le moment, et on se reverra donc d'ici un peu moins de 2 ans hein, pour un premier bilan chiffré et sans trop de com. Merci beaucoup Florence, à demain Nicolas.
À demain Mickaël.
Moteur. Un jour dans le monde. Nicolas Demorand. Oh,
allons-y.
Sur France Inter.
Oh
putain, moteur.
Eh oui, allons-y. Cinéma, Eva Bétan nous parle ce soir d'un film singapourien. Il s'intitule Apprentice.
Un film singapourien sur un bourreau, vous me connaissez, je ne pouvais pas rater ça, je ne pouvais pas vous en priver. Plus sérieusement, c'est un film qui est vraiment intéressant parce que c'est une manière d'aborder la question de la peine capitale qui est totalement singulière par rapport à ce qu'on peut connaître. Schématiquement, c'est bien sûr schématiquement. Les films français ont plutôt posé la question de la peine de mort d'une manière morale, d'une manière du côté de l'indignation, du côté des principes. Si on prend certains films américains, je pense par exemple à Juger coupable de Clint Eastwood, c'était sur le risque d'erreur judiciaire. Là, ce jeune réalisateur, il a 32 ans, va aborder ça par le biais du bourreau. Le héros principal est un jeune gardien de prison qui est recruté dans une prison de haute sécurité. Quand il passe son examen d'embauche, en quelque sorte, on lui dit « Pourquoi vous voulez faire ça ?» Il dit « Pour aider ceux qui ont l'envie de s'en sortir. » Et il est repéré, d'une certaine manière, par le bourreau de la prison. Et petit à petit, il va travailler un peu avec lui. Et puis l'autre va finir par lui proposer officiellement d'être son apprenti. Il va hésiter, puis finalement, il va sembler accepter.
Alors, on est dans une ambivalence totale, parce que le film ne va passer que par des comportements. Il n'y aura pas de discours, il n'y aura pas de psychologie, il n'y aura pas d'explication. Mais nous sommes avec ce gardien, et nous sommes dans son ambiguïté. À la fois, il semble fasciné par ce gardien de prison, et en même temps, on va voir que dans son histoire familiale, qui va être dévoilée petit à petit, il est à la fois du côté des victimes, et il est à la fois du côté des forces de l'ordre. En même temps, je disais, il est fasciné, mais en même temps, il est gêné. Il n'ose pas le dire tellement à l'extérieur. En même temps, il y a une sorte de solitude qu'il faut accepter. Les autres vont vous regarder comme si vous étiez un peu à part. Dans l'apprentissage, il y a comme là aussi une ambiguïté. Le bourreau veut bien faire son travail. Bien faire son travail, ça veut dire au moins moi, je tue les gens proprement. Le pendu, puisque c'est par pendaison, ne va pas mettre un temps fou à mourir. Et il va lui-même lui montrer à l'apprenti sur lui-même comment on fait pour mettre bien le nœud coulant derrière l'oreille. Vous voyez, il montre de la compassion. Il peut montrer de la compassion, le bourreau. Mais ça veut dire quoi, de la compassion, quand va tuer quelqu'un quelques minutes après? Est-ce que c'est simplement pour que le type soit calme juste avant? La question peut se poser. Ou est-ce qu'on peut avoir en même temps de la compassion? Il y a toute cette ambivalence là, et nous sommes dedans. Mais là où le film est clair, c'est qu'à un moment donné, quoi qu'on dise, il y a un grand levier. Et ce grand levier, il faut le tirer. Et quand on tire le grand levier, la trappe s'ouvre. Et quand la trappe s'ouvre, l'homme, avec une corde autour du cou, tombe et il meurt. Et ça, c'est un fait. Donc, il fait ce film à Singapour. Peut-être que ce n'est pas évident de faire ce film là-bas. Il le fait sans discours, mais ce qu'il dit, avec le chemin qu'il nous fait parcourir, arrive à une très grande force.
Apprentice, donc, qui sort le 1er juin, critique signée Eva Bétan. Dans quelques instants, Alain Frachon pour l'édito, juste là, Lou Reed, Sweet Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's closer, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Riding us starts back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ. Something to Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire. Soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get ready, see Jack, come on baby, see Jack, see Jack. Some people, they like to go out dancing, and other people, they have to work, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. Sweet Jane de Lou Reed, 18h55.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Et place donc sur Inter à l'édito d'Alain Frachon du quotidien Le Monde. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Demain, Barack Obama à Hiroshima, au Japon.
Sans précédent, cette visite. Hiroshima, c'était il y a 70 ans la première attaque nucléaire jamais perpétrée. Il y aura Nagasaki quelques jours plus tard. Depuis, aucun autre pays n'a usé de cette arme. Le président américain n'entend pas s'excuser. Il veut saluer la mémoire des victimes. C'est un geste éminemment symbolique, important, plein de nobles. noblesse, bien dans la manière de Barack Obama. C'est aussi un geste qui correspond à l'une des priorités que le président s'est fixée en arrivant à la Maison-Blanche il y a 7 ans. Obama disait vouloir un monde où le risque du feu nucléaire serait de mieux en mieux maîtrisé. Il l'a redit dans un discours à Prague en avril 2009. Il rêve d'un monde sans armes nucléaires. Alors on est en droit de dresser son bilan en matière de contrôle des armes atomiques. Et on arrive à cette conclusion, ce bilan est pour le moins mitigé. Bien sûr, il y a eu l'accord que les États-Unis et d'autres ont conclu en juillet dernier avec l'Iran. Il place le programme nucléaire iranien sous étroite surveillance internationale. Il arrête la course à l'enrichissement de l'uranium à laquelle se livrait Téhéran. Les optimistes saluent une étape dans la lutte contre la prolifération au Moyen-Orient. Les pessimistes sont plus sceptiques. Bien sûr, il y a eu aussi, dès juillet 2009, un nouvel accord de diminution de leur stock de têtes nucléaires stratégiques conclu entre les États-Unis et la Russie. Seulement voilà, pour obtenir l'aval du Congrès à ce premier accord, le président démocrate a dû entériner, sans barguigner, un immense programme de modernisation de l'arsenal nucléaire américain concocté par le Pentagone. Il concerne tous les vecteurs nucléaires, missiles au sol, embarqués en mer ou en l'air. Il court sur 30 ans, il en coûtera 1000 milliards de dollars au budget fédéral, il représente la plus vaste opération de modernisation des armes nucléaires américaines jamais entreprise. Bref, cela ne s'appelle pas vraiment donner l'exemple. Le recueillement à Hiroshima, le rêve du discours de Prague, le budget nucléaire du Pentagone. Ainsi aura gouverné Barack Obama, avec les mots qu'il faut et qui comptent, mais avec des actions qui n'ont pas toujours été au rendez-vous.
Alain Frachon du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone sonne, portera, je vous le rappelle, sur l'hôpital public, sur ses missions, son fonctionnement, son économie, ses perspectives d'avenir. Dites-nous, que vous en soyez usager ou personnel, quel rapport vous entretenez à cette institution, quelle expérience vous en avez, ce que vous en attendez. Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, sera tout à l'heure notre invité. Vos questions au standard 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le hashtag Telson. Martin Hirsch, donc, pour toutes vos questions tout à l'heure. Le journal d'Alain Passerelle est à suivre dans quelques instants. Le temps pour moi de vous dire que Augustin Trapenard, à 9h10, recevra demain sur Inter dans Boomerang le grand artiste Christo.